Bonjour, nous sommes les élèves du collège de La Rochefoucauld de Liancourt. Dans le cadre d'un projet radio, nous allons interviewer Céline Campois. Céline Campois, merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous vous présenter et nous présenter votre métier ?
Bonjour à tous, merci de m'inviter parce que pour moi c'est un exercice où je ne me suis jamais prêtée. Je travaille au CPIE 60, ce qui signifie Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement. Je suis chargée de mission environnement. Chargée de mission environnement, ça consiste à réaliser des diagnostics sur les animaux. Un diagnostic, c'est un inventaire. On compte les animaux, combien il y en a et de quelle espèce ils font partie. Donc je travaille vraiment sur tous les animaux, mais aussi les végétaux. Quand on fait un diagnostic, en fait, on va sur un site naturel ou semi-naturel. Et moi, ce que je vais faire, c'est un état des lieux. Comment est ce milieu ? Est-ce qu'il est en forme, donc en bonne santé, ou au contraire, pas du tout en bonne santé ? Et ça, je vais pouvoir le savoir en fonction des animaux qui sont sur le milieu. Et aussi, je vais regarder, en plus des espèces, je vais regarder comment est le fonctionnement de l'eau, comment ça circule, quel est l'état aussi de l'eau. Par exemple, l'eau, elle peut être polluée. On regarde aussi les sols, on les étudie. Du coup, un diagnostic, c'est beaucoup dans le détail. Vraiment, on regarde l'intégralité du milieu, hein, dans les sols, sur l'eau, enfin l'eau et tous les animaux et végétaux. Ensuite, ce que je fais dans mon travail, je fais plein de choses. C'est très, très diversifié. Je rencontre des élèves, comme on a pu faire au Marais de Sacy. C'est une part de mon travail où je sensibilise, je forme. Du coup, je transmets des connaissances. Pas que pour transmettre des connaissances, c'est aussi pour apporter une part d'émerveillement aussi, pour moi et pour les élèves. Je forme aussi des élus, donc je vais les former pour leur dire de faire attention à ne pas éclairer de trop la nuit, à choisir de bons éclairages. Donc je travaille aussi sur la pollution lumineuse. Je travaille sur plein de thématiques différentes. Après, ça dépend des structures. Moi, j'ai une structure qui me permet de travailler sur toutes ces thématiques. J'ai des amis qui travaillent que sur la loutre. C'est très précis. Il y en a qui travaillent que sur les chauves-souris. Moi, je travaille sur tous les animaux.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ?
Alors, j'étais au collège, en troisième, et on m'a emmenée au Forum des métiers. Et j'ai rencontré un homme qui travaillait dans une structure un peu comme la mienne, qui travaillait sur l'environnement. Et du coup, il m'a expliqué son métier, tout ce qu'il faisait, qu'il comptait les amphibiens, donc les grenouilles, les crapauds, qu'il était tout le temps dehors, qu'il accompagnait des gens, qu'il les formait. Et ça m'a émerveillée, son métier. Et donc, j'ai eu envie de faire comme lui. À cette époque-là, j'avais envie de faire son métier, mais j'avais aussi envie d'être vétérinaire. Mais je ne pouvais pas faire vétérinaire parce que je craignais le sang, donc c'est problématique. J'ai fait des stages dans des vétérinaires. Je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout. Quand il a commencé à trifouiller dans le corps d'un chat pour le stériliser, j'ai dû sortir de la pièce, ça n'allait pas du tout. Donc voilà, je me suis dirigée plutôt sur l'autre métier de chargée de mission environnement.
Vous étiez quel type d'élève à notre âge ?
Alors, déjà, il faut savoir que moi, j'ai redoublé mon CP. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai redoublé mon CP. Du coup, à 12 ans, je devais être en 6e. Et j'étais pas très très bonne à l'école. J'étais pas très forte en maths, déjà j'aimais pas ça. Je n'étais pas très bonne non plus en physique-chimie. Et j'étais pas très bonne parce qu'en fait, je n'avais pas forcément d'objectifs. Voilà, ça me plaisait pas tant que ça. Et après, j'ai eu des objectifs. J'aimais beaucoup les sciences, parce que j'ai eu des professeurs aussi qui étaient très très intéressants. Et du coup, ça m'a donné envie d'approfondir le sujet des sciences. Et du coup, de moi-même, j'ai travaillé. J'ai travaillé dur. Et derrière, du coup, de fil en aiguille, je me suis prise à aimer toutes les sciences, pas que les sciences de la vie. J'ai travaillé la physique-chimie et les maths. Mais au départ, j'étais pas très bonne. Hein. Donc finalement, on peut ne pas être très bon à un moment de sa vie et être très bon par la suite, parce que j'ai quand même fait un master. Donc j'ai fait un bac plus 5. Donc il ne faut pas se dire qu'on n'est pas très bon à l'école et qu'on ne va pas, on va pas faire un métier qui nous plaît en soi. C'est peut-être que des fois, ça ne nous correspond pas sur le moment ou qu'on n'a pas rencontré aussi de bonnes personnes.
Pouvez-vous nous décrire votre journée type de travail ?
C'est difficile de vraiment donner une journée type parce que c'est un métier qui est très très diversifié. Aujourd'hui, je suis avec vous pour qu'on fasse un interview suite à une animation sur le site des Marais de Sacy. Hier, je travaillais sur une carrière, là où on extrait du sable, pour compter des animaux, compter des végétaux. Avant-hier, je regardais des arbres et je comptais et évaluais des cavités d'arbres des fissures, des fentes. C'est ce qu'on appelle des dendromicro-habitats, donc des habitats sur des arbres, pour voir s'il y a des oiseaux qui peuvent nicher dans les cavités d'arbres, des chauves-souris. Et avant de faire une animation sur, avec des enfants de lycée, on analysait la qualité d'une rivière. Et il y a encore, en tout début de semaine, je faisais une animation dans la forêt pour leur parler des impacts des activités humaines sur la forêt. J'ai pas une journée qui ressemble à une autre. Et c'est ce qui est très intéressant dans mon métier. C'est que chaque jour, en fait, est différent. Donc on ne s'ennuie jamais et on travaille sur plein de thématiques différentes. Du coup, j'apprends tous les jours. Donc c'est hyper passionnant.
Nous avions visité les marais de Sacy avec vous. Qu'est-ce qui caractérise un marais ?
J'aimerais bien vous retourner la question. Déjà, la principale chose, c'est une zone humide. Un marais, c'est une zone humide. Donc, vous allez avoir de l'eau dans les sols, une partie de l'année. Donc, ce n'est pas forcément toute l'année, c'est une partie de l'année, avec des végétaux qui sont caractéristiques de ces zones humides. Il faut savoir que vous n'allez pas retrouver ces végétaux-là dans votre jardin. Même si, des fois, vous avez une flaque d'eau, vous n'allez pas retrouver ces végétaux-là. C'est parce que ces sols-là, ils permettent de contenir de l'eau une bonne partie de l'année. C'est une zone humide, les marais. Par contre, les zones humides, vous en avez tout un tas. Il n'y a pas que les marais. Les zones humides, ça peut être des marais, des tourbières. Et les mares ne sont pas des zones humides. Le pourtour de la mare, c'est une zone humide, parce que vous avez une végétation caractéristique.
Quel est le rôle d'une zone humide ?
Les zones humides, elles ont plein de rôles, et d'ailleurs qui sont très importants. Il faut s'imaginer que la zone humide, elle agit comme une éponge. En automne, il pleut quand même assez souvent, normalement. Et du coup, cette zone humide, elle va absorber en fait toute l'eau en excès. Donc, éviter qu'il y ait des inondations dans les villages alentours. Par contre, en été, il pleut pas trop. Et souvent, on parle de sécheresse au niveau des cours d'eau, des rivières. Et la zone humide, en fait, elle va relarguer. Elle va redonner l'eau qu'elle a stockée en automne. Toute l'eau des marais, eh bien, elle va sortir et elle va se diffuser dans les cours d'eau. Après, vous avez vu toute cette végétation ? Quand on était à la tour d'observation, cette végétation, en fait, de par ses racines, elle va permettre de filtrer les polluants. Autour des marais, on a des cultures agricoles. Donc, peut-être qu'ils mettent des produits phytosanitaires. Donc, des produits pour lutter contre les champignons, les insectes, pour éviter qu'ils se fassent attaquer, en fait, les champs. Mais du coup, ces produits phytosanitaires, ils peuvent se retrouver dans notre eau que l'on va consommer un jour. L'eau qui se retrouve dans les rivières, vous allez la consommer un jour. Donc vous pouvez avoir des polluants dans ces eaux. Et les zones humides, elles permettent d'éviter qu'il y ait trop de polluants. Donc elles vont vraiment filtrer, elles épurent l'eau. Un autre rôle majeur, c'est que c'est un réservoir de biodiversité. Sur les marais, vous allez retrouver une très très grande richesse d'animaux et de végétaux. Et si on vous a fait visiter les marais de Sacy, c'est parce que c'est un site exceptionnel à l'échelle de l'Oise, mais même des Hauts-de-France, même à l'échelle nationale. Et c'est un site exceptionnel également à l'échelle internationale. Il est d'exception, parce qu'il y a énormément d'animaux qui sont protégés, qui sont également menacés, et des végétaux aussi, qui sont menacés. Et on va les retrouver sur ces sites-là. Et en termes d'autres fonctions, aujourd'hui, vous entendez beaucoup parler de réchauffement climatique. Alors le terme le plus adéquat, c'est plutôt dérèglement climatique ou changement climatique. Il faut savoir que comme les forêts, les zones humides, elles captent du carbone. Ça le stocke en plus, ça ne va pas le libérer.
Le marais de Sacy a-t-il toujours été comme il est aujourd'hui ?
Alors au départ, les marais de Sacy, c'est un étang. Et au fur et à mesure, des décennies et des décennies, en fait, il s'est envasé. Donc en soi, il a commencé à se combler un petit peu avec des débris végétaux. Et du coup, c'est devenu un marais. Naturellement, les mares, les étangs, en fait, ils vont se combler. Les lacs aussi, ils se comblent petit à petit par des débris végétaux parce qu'il y a des feuilles qui tombent, des branches. Et puis, on va avoir des micro-organismes, des petites bactéries qui vont les grignoter et du coup, en faire des petits amas au sol. Mais il faut des dizaines et des dizaines d'années pour que en fait ça se comble. Donc au départ c'était un étang qui s'est comblé. Et au moment où ça s'est comblé, les humains ils ont souhaité en faire quelque chose de ce marais. Donc ils ont décidé de faire de la culture sur les marais. Ils ont également fait de l'élevage de bovins, de chevaux. D'ailleurs, actuellement, il y en a. Des chevaux camargués, il y a des Highland Cattle, des buffles d'eau aussi. Mais à l'époque, il y avait un élevage. Aujourd'hui, s'ils sont sur site, c'est pour éviter que le milieu il se comble de trop, qu'il y ait trop d'arbres. Qu'est-ce qu'on faisait aussi sur le marais à l'époque ? On récupérait la tourbe. Vous avez une partie de tourbière et qui était exploitée pour la tourbe. Et la tourbe, eh bien, on s'en servait pour chauffer. Voilà, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on faisait sur les marais. Et aujourd'hui, donc, on fait, y a des chevaux, des bovins, et on fait aussi de la pêche et de la chasse sur les 1000 hectares. Donc il y a les marais, il y a une partie de tourbière, mais il y a aussi des étangs, donc des étangs de pêche. Les étangs, ce ne sont pas des marais, forcément. Mais ils ont englobé tout le site, tous les 1000 hectares, ils ont appelé ça les marais de Sacy.
Combien y a-t-il d'espèces différentes au marais de Sacy ?
Comme je le disais tout à l'heure, on a énormément d'espèces qui sont très importantes parce qu'elles sont menacées, donc rares. Après, je pourrais pas vous donner un chiffre.
Quel type d'espèces pouvons-nous rencontrer au marais de Sacy ?
Vous pouvez observer des crapauds, le crapaud commun, plein de grenouilles différentes, des grenouilles vertes, des grenouilles rousses. On va avoir plein d'oiseaux. On va retrouver du blongeuse nain, du béhoreau gris. Ce sont des oiseaux vraiment qui sont magnifiques et qui sont vraiment qu'on va retrouver que sur ces zones-là. Il faut savoir que 40% des oiseaux vivent au niveau des zones humides. C'est énorme, hein. 40% des oiseaux que l'on va retrouver sur notre territoire sont dépendants des zones humides. D'où l'importance de les conserver.
Pouvez-vous nous définir qu'est-ce qu'une espèce protégée et y a-t-il des espèces protégées à Sacy ?
Il y a des espèces protégées à Sacy, au marais de Sacy, forcément. Alors, juste pour définir du coup ce qu'est une espèce protégée. Il y a différentes protections. Vous avez différents degrés. Vous avez des protections des espèces à l'échelle internationale. Ensuite, vous avez des espèces qui sont protégées à l'échelle européenne. Et ensuite, vous avez des espèces qui sont protégées à l'échelle nationale. Nous, à l'échelle nationale, on a un code de l'environnement. C'est qu'est-ce qu'on ne doit pas faire sur des espèces. Par exemple, ne pas les capturer, ne pas les mutiler, ne pas les caresser, ne pas les retirer de leur milieu naturel, ne pas détruire des nids, les œufs. Tout ça, c'est défini dans le code de l'environnement. Après, dans le code de l'environnement, vous allez avoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces espèces, mais dans un cadre scientifique. Et vous allez avoir des listes d'espèces qui sont protégées. Et elles sont protégées parce que soit elles sont rares, elles sont menacées. On protège en France aussi des espèces qui sont dites emblématiques, parce qu'elles sont patrimoniales, en fait. Je pense par exemple au tétralyre, mais on n'en a pas ici. C'est dans la région montagneuse, vers Grenoble.
Vous nous avez parlé d'espèces invasives. Quelles sont-elles ?
En France, normalement, on ne doit pas dire espèces invasives. C'est un anglicisme. Nous, on parle d'espèces exotiques. Donc une espèce exotique, c'est une espèce qui va être sur une zone où au départ, elle n'était pas là, où elle n'est pas autochtone. Par exemple, une espèce qui vient du sud et qui se retrouve dans l'Oise, c'est une espèce qui est exotique. Mais on peut avoir des espèces exotiques qui n'ont aucun impact négatif sur l'endroit où elles se trouvent actuellement. Mais on peut avoir des espèces exotiques, oui, qui ont un impact négatif. Et du coup, on rajoute derrière espèces exotiques, envahissantes.
Pouvez-vous nous donner des exemples d'espèces exotiques ?
On va faire les exotiques envahissantes parce qu'il y en a quand même quelques-unes et celles qui posent problème. Et du coup, ça peut vous aider, vous aussi, à être vigilant. Dans l'Oise, en espèces exotiques envahissantes, on va avoir le ragondin. Ensuite, il va y avoir le rat musqué. On va avoir aussi le frelon asiatique. On va avoir le raton laveur. On va avoir du tamia aussi. C'est un petit écureuil. La bernache du Canada, c'est une grosse oie. Il y a la perruche à collier aussi. Vous avez des plantes aussi. Là, je parle que des animaux. Il y a beaucoup de plantes. Le buddleia de David, qu'on appelle l'arbre à papillons. Mais ce n'est pas du tout bon pour les papillons. C'est une plante qui est très peu nutritive, l'arbre à papillons. Donc, il se fatigue dessus. Et les chenilles des papillons s'intoxiquent en consommant les feuilles. Donc, il n'y a rien qui va avec cette plante-là. Ensuite, en espèces végétales, vous avez la renouée du Japon. Il y en a beaucoup sur les bords de route, des asters américains, du sénesson du Cap. En fait, il y en a vraiment énormément d'espèces exotiques envahissantes. Il y en a certaines qui vont avoir un impact direct. L'animal va le consommer, il va mourir. Le sénesson du Cap, par exemple, s'il est consommé par un cheval, il peut mourir. Vous en avez d'autres, ça ne va pas tuer l'animal directement. C'est que ça va concurrencer d'autres espèces végétales qui sont de chez nous et qu'on a envie de conserver. Parce que ça fait partie de notre patrimoine naturel, qu'on n'a pas envie de le voir disparaître. Il y a différents types d'impacts selon les espèces exotiques envahissantes.
Nous avons vu qu'il y avait des buffles dans les marais. Sont-ils originaires de notre région ?
Oui, les buffles d'eau, on peut en retrouver dans notre région, en Camargue aussi. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait aussi des chevaux camarguais, donc eux, ils viennent de Camargue. Et on choisit aussi, enfin, on sélectionne des animaux aussi qui sont faits, qui sont adaptés au milieu humide. Parce que je vous ai dit, ils ont les pattes dans l'eau. Donc il faut qu'ils soient capables de pouvoir bien marcher. Tous les animaux ne sont pas faits de la même façon.
Vous êtes spécialiste en chiroptères. C'est quoi des chiroptères et quelles sont leurs caractéristiques ?
Il y a de très grands spécialistes, bien plus que moi. Moi, je les étudie, on va dire, légèrement. Je fais que quelques études sur les chiroptères. Et les chiroptères, ça signifie chauve-souris. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des chauves-souris, mais elles ne sont pas chauves, les chauves-souris. Elles ont des poils, elles ont un pelage, et ce ne sont pas des souris. Donc c'est un nom qui ne leur va pas du tout, ni chauve, ni souris. Par contre, chiroptère, c'est un mot qui leur va bien, parce qu'en grec, chiro, ça veut dire main, et ptère, ça veut dire aile. Et les chauves-souris, elles ont la capacité de voler avec leurs mains. Donc chiroptère, vole avec les mains. C'est le nom scientifique qu'on utilise du coup.
Y a-t-il des espèces de chauves-souris qui se nourrissent de sang ?
Oui, il y a des espèces qui se nourrissent de sang. Il y a 3 espèces dans le monde qui consomment du sang. Elles sont en Amérique du Sud. Il faut y aller pour les rencontrer. Il n'y en a pas sur notre territoire. Et ces 3 espèces, elles portent le nom de vampire d'Azara, le vampire à pattes velues, et le vampire à aile blanche. Elles portent vraiment le nom de vampire simplement parce qu'elles consomment du sang. Après, elles sont vraiment toutes petites, 9 à 10 cm. Il faut s'imaginer que ces chauves-souris, elles font comme un moustique sur vous. Elles vont s'attaquer notamment au bétail, aux chevaux, à certaines vaches en Amérique du Sud. Et elles vont faire comme un moustique. Elles vont faire une piqûre, sauf que elles, c'est avec leurs dents. Et le sang va couler. Et elles vont le lécher. Le lapé. C'est pas comme Dracula avec un système de ponction, comme une paille qui viendrait à l'intérieur de nos vaisseaux et prendre du sang. C'est pas du tout les vampires qu'on connaît dans les films. C'est vraiment tout petit et ça lèche le sang.
Du coup, est-ce que ça peut tuer les animaux ?
Quand l'animal, la vache ou le cheval va se faire mordre, il y a toujours un risque en fait que cet animal avait une maladie. Donc oui, c'est possible qu'il meure de cette maladie, mais il y a c'est très rare. Et quand on se blesse, c'est pareil. On peut avoir une infection, en fait, si on ne désinfecte pas. Donc, il y a un risque derrière d'infection. Mais ça reste rare. C'est vraiment une toute petite incision. Hein.
Comment pouvons-nous faire pour préserver ce marais à notre échelle ?
C'est une bonne question. Le facteur déterminant pour un marais, c'est l'eau. C'est l'eau qui, en fonction des fluctuations, donc son niveau, va faire qu'on aura des marées ou non, où il va y avoir un assèchement. Donc il faut faire attention à l'eau qu'on utilise, réduire sa consommation en eau. C'est peut-être difficile des fois, mais peut-être limiter aussi l'usage que l'on fait à la douche. On va éviter de se laver pendant 20 minutes en laissant couler l'eau. Il faut faire attention aux produits qu'on utilise aussi, parce que ces produits-là, j'en parlais tout à l'heure, ils se retrouvent dans l'eau. Donc après, ça peut polluer le marais. Même s'il a une capacité à filtrer l'eau, il a une limite. Comme tout être vivant en soi, le marais il est composé de plantes qui sont vivantes et elles vont avoir leurs limites. Si on met trop de polluants, elles n'arriveront plus à jouer leur rôle et donc elles n'arriveront plus à dépolluer les eaux. Donc c'est aussi à nous, même à notre échelle, à faire attention aux produits qu'on met dans nos toilettes, dans l'évier. Il y a des personnes, des fois, qui vont jeter directement dans les toilettes des produits qui n'ont rien à faire, en fait, dans les circuits d'eau, qui vont se retrouver derrière dans notre eau de boisson. Donc, on ne jette pas n'importe quoi dans les toilettes ou dans les éviers. Il y a des produits qui sont plus nocifs pour l'environnement que d'autres, et même pour vous aussi. Après, tout à l'heure, je parlais des produits phytosanitaires. Donc des produits qu'on met dans les champs, dans les champs pour lutter contre les champignons, des maladies, contre des insectes. Mais on peut choisir aussi d'acheter des produits qui utilisent un peu moins de produits phytosanitaires. On n'est pas obligé d'acheter du bio, on peut. Mais on peut aussi acheter chez des agriculteurs qui travaillent en raisonné. C'est-à-dire qu'ils vont, ajuster l'apport en phytosanitaires. Donc pas trop en mettre. Et ça, ça joue sur les marais, hein, parce que forcément, c'est les champs qui sont autour des marais de Sassy. Et je pense que c'est tout.
Comment se passe la visite du marais ? Pouvons-nous les visiter seuls ?
On peut visiter les marais de Sassy en autonomie. C'est ouvert au public toute l'année, hein, les marais de Sassy. Donc à chaque saison, c'est ouvert. Après, vous n'aurez pas accès à l'ensemble des marais de Sassy sans professionnel. Juste en dessous de la tour d'observation, à côté de la rivière qui s'appelle la Frette, il y a un petit chemin qui longe la Frette et qui permet de rentrer un peu plus dans le marais de Sassy. Là, pour le coup, il faut être accompagné, on peut dire, d'un guide en soi. Après, il faudra voir cet été comment c'est accessible, parce qu'apparemment, l'année dernière, c'était ouvert au public, sans avoir besoin d'un guide. Mais ça, c'est tout récent, donc il faudra voir en été si c'est le cas.
Quelles sont les règles quand nous visitons les marais ?
On ne va pas dans la mare, on ne rentre pas dedans. On ne jette pas ses déchets par terre, on les garde sur soi, puisqu'après, ça peut être des pièges même pour les animaux sauvages, puis ça pollue les sols. On n'arrache pas les plantes, même si elles sont très jolies. On les laisse sur le site, même si elles ne sont pas protégées, parce que tout à l'heure, on parlait des espèces protégées, mais même si elles sont communes en soi, elles ont de l'intérêt. Elles sont communes juste parce qu'elles ne sont pas menacées, mais à terme, si on n'y fait pas attention, elles le seront. Et puis, on ne rentre pas non plus dans le cours d'eau, déjà parce que ça peut être dangereux. Et puis, y a des animaux qui vivent à l'intérieur aussi, donc on peut les déranger. Oui, bon, c'est tout.
Quel est votre coin préféré dans le marais ?
J'aime beaucoup la mare, parce qu'il y a plein d'espèces à observer, mais de plus près, parce que quand on est au niveau de la tour d'observation, on est assez haut. Après, ça permet d'avoir une vision sur tout le paysage, mais j'aime beaucoup la mare.
Merci Céline Campois d'avoir répondu à nos questions. Retrouvez des informations sur les marais de Sassy sur www.oisealat-tourisme.eu.
Merci à nos professeurs et à l'équipe de Radio Graphite. Merci d'avoir écouté notre émission réalisée dans le cadre d'un CDDC.
Contrat départemental de développement culturel financé par le département de l'Oise.
Réécoutez l'émission en podcast sur www.graphite.net.